Alors, en parlant de l'oubli, je suis quelqu'un qui, lorsque je suis fatigué, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Il y a plein d'oubli, et surtout dans la mêlée. Et, en fait, pour vous montrer à quel point ça peut être problématique dans ma vie, la semaine de ma vie qui était peut-être plus fatigante de tout, c'était la semaine après la naissance. Si, mais le mariage plutôt, d'Abigail, notre fille. Tellement j'étais fatigué que j'ai oublié des choses un peu partout, mais surtout, il y avait une chose qui était assez marquante. J'ai oublié, perdu les clés de la voiture. Alors, je m'en rappelle très bien, la dernière fois que je les ai posées sur une étagère, et à partir de ce moment, c'est comme c'est disparu de la terre. Et pendant la semaine, je cherchais partout, je ne sais plus où ils sont. En fait, pendant les mois après, en fait, même cet été, avant notre déménagement, j'ai fait un dernier tour dans la maison. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait avec ces clés. Alors, bon, l'oubli, ça peut poser vraiment un problème. Surtout l'oubli d'un rendez-vous. Mais l'oubli d'une personne, alors là, c'est beaucoup rare. Oublier une personne, c'est... franchement, hein, c'est dur. C'est dur à avaler. Mais dans notre passage, en fait, ce qu'on va voir, c'est que Dieu, d'abord, il s'occupe des ennemis d'Israël, là, c'est Babylone, Élisée. Mais deuxièmement, il veille sur son peuple. Et dans le fait qu'il veille sur son peuple, il va faire des choses tout à fait nouvelles. Mais troisièmement, le grand problème, même si Dieu est toujours présent, il est toujours là, c'est Israël qui a oublié Dieu cette fois-ci. Et il ne l'invoque plus. Mais quatrièmement, ce qu'on va voir, c'est que Dieu, face à cela, devait corriger son peuple. Et ce n'était pas quelque chose de rancunier. Parfois, on a cette idée, Dieu dans sa colère. Mais en fait, c'est un preuve de son amour. On va voir justement comment l'amour se traduit dans cet acte. Enfin, d'abord, c'est Dieu qui s'occupe de Babylone. Et nous sommes en Ésaïe 43. Et on va lire ensemble les versets 14 et 15. Ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Je les ferai couler, tous ces fuyards, ces chaldéens, dans leur bateau de plaisance. D'abord, on se remet dans le contexte. Le contexte est entre ces deux passages, au début du chapitre, ce qu'on a vu dernière fois en Ésaïe, lorsqu'il a dit « Sois sans crainte, ô Jacob, car je t'ai racheté ». Et je t'ai appelé par ton nom, verset 1, et puis aussi, il reprend ça en le chapitre suivant, lorsqu'il dit, écoute, Jacob, mon serviteur, Israël, que j'ai choisi. Donc, c'est un passage toujours dans ce registre d'encouragement. C'est une promesse de délivrance. On se rappelle aussi que à cette époque, Israël vient d'être sauvé miraculeusement par la main de l'Éternel des Assyriens. Donc les Babyloniens ne sont pas encore une puissance mondiale. Ils sont grandissants. Hein? De notre monde aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait un peu comme Australie. Hein? Donc un pays majeur, hein, puissant, mais bon, roi du monde, non. Donc, Dieu, il met la main sur quelque chose qui va arriver. Hein, il parle d'une délivrance avant même qu'il serait en danger. C'était donc un temps futur dont il parle. Il parle même de comment tous ces Chaldéens, dans leur bateau et leur plaisance, en fait, littéralement, il parle de réfugiés qui se mettent sur des bateaux très riches, donc des idées de comment ils vont fuir et tout. Il dit « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » C'est la fin donc d'une terrible épreuve qui est annoncée avant même qu'elle ne commence. C'est ça ce qui est fort avec Dieu, qu'il a cette puissance. Même, et on se rappelle, c'est toujours dans cette idée qu'il parle et les choses entrent en existence. Qui a ce pouvoir de parler, c'est pas prédictif dans le sens que, oh, je sais pas, on prédit un événement à venir, un peu comme un marabout ou quelque chose comme ça, qui a dit, c'est pas ça, hein. Non, Dieu parle et les choses entrent en existence. C'est tout notre registre. Et la prophétie, de cette manière, marche comme cela. Il annonce ce qu'il va faire ensuite. Donc, petite nuance là à garder. La délivrance, donc, sera tellement rapide qu'ils prennent des bateaux. C'est sans appel. Mais il fait une œuvre toute comme cela en nous aussi, en attendant. Telle que la nouvelle naissance, hein. C'est dans un instant, c'est tout enveloppant, enfin, ça nous prend tout et ça nous apprend aussi sur lui et nous rassure qu'il est tellement prêt pour faire ce qui est même inimaginable dans sa délivrance. Et c'est Dieu qui le promet. Je suis l'Éternel, il dit. Il ne faut pas donc ignorer cette promesse de délivrance, car regardez comment c'est signé, si vous voulez. C'est signé l'Éternel, Yahvé. C'est signé celui qui est, qui était, qui le sera, le Saint. Donc il est tellement à part, il ne ment pas, il est pur, il n'y a pas d'ombre en lui. Donc vous pouvez être assuré de ce qu'il a annoncé. Il est le Créateur, donc c'est lui qui a mis toutes les choses en place. Donc il a le pouvoir d'arriver jusqu'à la fin. Et puis, il est le Roi, ayant donc toute autorité. Et ayant donc toute cette autorité, il peut dire et il peut faire exactement ce qu'il a dit. Et c'est ainsi, avec cette idée en tête, qu'il veille sur son peuple. Et c'est fait vraiment d'une manière spécifique. Il veille sur son peuple, comme il a fait en Exode. Il y a un principe dans le passé qui est mis en avant dans le présent, mais toujours d'une manière nouvelle. Regardez le passage qui suit. Hop. Faut que je revienne en arrière. Ouf. Vraiment un truc bug. Bon, je vais lire verset 16 à 21. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer et un sentier sur les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Et ils se couchent et ne relèvent plus. Ils se sont éteints. Ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, des chacals et des autruches que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors, ils délivrent de leurs ennemis dans cette protection, ce regard de veillant. Il veille sur eux et sachant où ils y vont, il sait parfaitement comment il va faire les choses. Sa main protectrice, sa main de père qui veille sur ses enfants se manifestera dans une nouvelle œuvre. D'ailleurs, c'est intéressant comme il le dit. C'était verset 18. Ne vous souvenez pas des premiers événements. Ce n'est pas une question. Il dit, ne souvenez-vous pas. En fait, il dit, ne soyez tellement dans le passé que vous ignorez ce que je vais faire. En fait, voici, je fais une chose nouvelle. Elle est prête à germer. Alors, il est important parce qu'il évoque quand même l'Exode. Il a fait un chemin dans la mer et puis il a délivré son peuple. Alors, pourquoi est-ce que, d'un côté, il évoque le passé et puis il dit, ne souvenez pas de ça parce que je fais quelque chose de nouveau? Justement, lorsqu'il a délivré son peuple Israël de ses ennemis dans le passé, il a quand même donné des marqueurs, si vous voulez, des bornes qui s'appellent des fêtes. Par exemple, très récemment, ça c'est dans le judaïsme d'aujourd'hui, on a célébré la fête de la Shoah, enfin la fête, le jour de mémoire pour la Shoah. Délivrance. Alors, le Pâques, c'est le même genre de choses. C'était une délivrance, mais d'une dure et servitude oppressive pendant 400 ans. Pour nous, aujourd'hui, on a cette idée de fête et de joie, mais il faut quand même rappeler la dureté de leur esclavage et le fait que lorsqu'ils l'ont délivré de cela, Dieu voulait que ça soit ancré dans leur mémoire collective pour toujours. Donc, il y a la fête de Pâques. C'est la même chose avec Hanukkah, qui est la fête de la délivrance des Maccabéens ou de Purim, que vous étudiez en Esther ou Sukkot, lorsqu'ils sont sortis de cet désert. C'est important donc de se rappeler que c'est l'Éternel qui a fait dans le passé pour nous conduire avec intelligence dans le temps présent. Donc, on se rappelle des principes de cette délivrance, c'est-à-dire que face à l'impossible, Dieu sauve son peuple, il n'oublie jamais son peuple, il est là avec eux, même dans les choses les plus difficiles. Et oui, certes, il y a un mystère et parfois c'est incompréhensible par nous, mais il est là parce qu'il est sauveur et c'est la file de l'histoire qui nous enseigne qu'en réalité, avec chaque épreuve, il est là comme libérateur qui délivre son peuple, il est sauveur. Il y a un danger par contre. Et le danger, c'est s'ancrer tellement dans le passé que nous ne voyons plus ce qui est en face. Voilà tout le problème avec Jésus et les pharisiens, n'est-ce pas? Lorsque tellement sur leur tradition qui ne permettait pas que le Seigneur guérisse un homme malade. Là, c'est un problème. Donc, il ne faut pas s'attacher tellement au passé qu'ils ratent la nouvelle œuvre parce qu'ils veillent sur eux et ils veillent sur eux sur et dans ou au travers, si vous voulez, cette nouvelle œuvre. C'est-à-dire que si le peuple attendait un délivreur, un libérateur comme Moïse, donc un nouveau Moïse qui entre en Babylone pour rassembler le peuple et qu'il sorte comme cela, franchement, ils seront toujours aujourd'hui en Babylone parce que ça ne s'est jamais produit ainsi, n'est-ce pas? Et quand on est tellement fixé dans nos présupposés, nos idées, que les choses doivent se passer comme ça, et là on voit ça souvent chez certains critiques de la Bible et critiques de la foi, ils sont tellement dans leur manière de penser qu'ils n'arrivent pas à voir Dieu qui est tout autour. Nous aussi, en tant que croyants, nous pouvons être dans cette même mentalité. Dieu a toujours fait les choses comme ça, Donc j'attends qu'il le fait encore. Alors que peut-être il veut faire quelque chose de nouvel. Il est toujours en train de nous faire quelque chose de nouvel parce que Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Les principes sont les mêmes, mais les méthodes changent souvent, parfois. Ainsi, l'Évangile nous conduit à tenir, vraiment tenir cette tension entre ce qui est déjà arrivé et ce qui est à venir. Parce que, puisque Dieu veille sur nous, il ne veut pas que nous restions dans une vie stagnante. D'ailleurs, si nous ressentons que notre vie est stagnante ou statique, c'est un signe de danger vis-à-vis de notre relation avec lui. Il veut toujours que ça grandisse, que ça s'approfondisse, que nous allons plus loin avec lui, parce qu'il veille sur nous. Mais bon, pour revenir à Ésaïe, le grand problème avec Israël, peut-être parce qu'ils étaient tellement dans le passé, et puis tout ce qui était nouveau, c'était les dieux autour. N'oubliez pas qu'ils venaient de voir cette délivrance des Assyriens. Et puisque maintenant, ils ont vu tout cela, du coup, c'est comme, ah, sain et sauf, il met Dieu de côté. Il ne l'invoquait plus. Et évidemment, ça a été un grand problème. Verset 22. Donc on revient en Ésaïe. On est en Ésaïe 43, versets 22 à 24. Et ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des agneaux en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas astreinte à un service d'offrande et je ne t'ai pas lassé pour de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique, pardon, et tu ne m'as pas rassasié de la grâce de tes sacrifices, mais tu m'as astreinte à la servitude par tes péchés. Tu m'as lassé par tes fautes. Là, il fatigue Dieu quelque part. Il met Dieu à l'épreuve. Tout à fait inattendu de leur part. C'est difficile d'imaginer comment ils auraient pu oublier après tout, n'est-ce pas? Mais Jésus a rencontré la même chose lorsque, à Nazareth, il était astreinte, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait parce qu'il est dit en Matthieu 13, 58, il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité bloque justement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais comme ils l'ont oublié, peut-être même, ils ont perdu leur passion. Ce qui est tout à fait normal. Il y a des moments dans la vie où on est très fervent pour le Seigneur. Toute flamme, tout va beau. Enfin, dans la louange, on est prêt à lever les mains, les larmes coulent. Il y a des moments très très forts. J'espère que nous passons par cela maintenant. Il y a d'autres moments où on est fatigué. Enfin, la vie est preneur et on est au bout des forces et c'est juste, c'est normal, c'est la vie. Mais là, ce n'est pas ce qu'il est dit. Là, il dit, car tu t'es lassé de moi, Israël. Tu n'as pas offert des sacrifices. Carrément, ils passent outre. Ils font autre chose. Ils sont fatigués avec Dieu. Et Dieu, il met le doigt sur les choses. Il s'ennuie. Quand on est ennuyé dans la présence de Dieu, c'est un grand danger. Hein. D'ailleurs, je me rappelle en parlant avec un de mes enfants qui avait du mal à une certaine matière. Et il me dit, mais tu ne comprends pas ce prof, il est tellement ennuyant, enfin, je m'ennuie. Je dis, attention, hein. Ça c'est un grand danger, parce que si tu t'ennuies, tu t'endors, Et en quelques semaines, toute la classe sera bien plus avancée que toi et tu n'auras plus ce qui est nécessaire pour attraper et tu vas te nuire. Quelque part, c'est la même chose. Hein? L'ennui est un signe. Et lorsque ça nous arrive, il est toujours bon pratique de s'arrêter un petit moment. D'ailleurs, ce qu'on a évoqué la semaine dernière, s'arrêter, savoir qu'il est Dieu. Peut-être faire l'inventoire de notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi? Enfin, Seigneur, enfin, le confesse aussi. Seigneur, je ne comprends pas. Je m'ennuie. Enfin, il est Dieu. Il est bien au-dessus, bien plus grand que notre petite théologie et notre politesse. Parfois, il faut dire les choses exactement comme ils le sont dans sa présence, parce qu'il est grand, il est compatissant. Il peut justement gérer et il peut vraiment nous guérir là où il faut. Mais ça me fait penser justement à une des églises en Apocalypse chapitre 3. Vous savez, Jésus s'adresse des lettres aux églises, sept différentes églises. Je crois que tout le monde se voit vraiment comme l'église de Philadelphie. L'église qui est fidèle, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui, je suis l'église fidèle, mais le problème c'est qu'il y a sept églises, il y a une seule qui est fidèle, à 100%. Donc on ne s'étonne pas que, on se tombe, ou on se classe parfois dans une des autres manières, mais en Apocalypse 3, 15, il s'adresse à l'église de Laodicée. Et regarde ce qu'il dit. Il dit: je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. À l'époque d'Ésaïe, là où il écrit, c'était une époque prospère. Et dans cette prospérité, il y a plein de choses qui se passent. Donc, il s'ennuie dans sa présence. Il y a de l'argent qui coule, il y a toutes ces opportunités, mais apparemment, ils ne saisissent pas l'occasion pour louer Dieu comme il le faut. Bon, voilà une image qui n'a rien à voir avec notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais si, quand même. Mais si. Dans l'Occident, on est tellement béni, on a des choses tellement bien chez nous que oui, effectivement. On se croit parfois riche, on se croit bien, on se croit qu'on est vraiment ayant tout ce qu'il faut, mais on est tiède parfois, notre amour refroidit. Et Dieu qui nous aime tellement, il n'est pas le genre de père qui nous oublie, qui part en voyage. Et ben, en fait, qui ne vient qu'avec quelques petits cadeaux. Bonjour les enfants, et puis vous allez oublier. Non, il est le genre de père qui est vraiment impliqué dans la vie de nous, ses enfants, tellement qu'il ne permet pas ça. Les véritables dangers à notre vie spirituelle et notre croissance avec lui. Et parce qu'il ne le permet pas, il corrige son peuple. Et voilà pourquoi il devait aussi corriger son peuple Israël. Ce que nous voyons, on revient en Ésaïe 43, et on reprend jusqu'à la fin, verset 25 jusqu'à la fin. C'est moi qui efface tes crimes, pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelle mon souvenir, plaide ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Pour ton premier père a péché, tes entreprises se sont révélées contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du lieu saint et j'ai livré Jacob à l'interdit, Israël aux outrages. Clairement, Dieu veut pardonner. Il les invite à discussion. En fait, en hébreu, c'est verset 25 est très très fort. En fait, littéralement, ce qu'il dit, c'est moi qui pardonne tes péchés. Il va mettre vraiment l'emphase sur c'est moi. Et lorsque, enfin, comme tout parent qui est en train de le dire, il faut entendre toute cette émotion qui est derrière. Il veut les pardonner. C'est pas les autres dieux, c'est pas les autres voix. Non, c'est lui et lui seul qui veut. C'est lui qui a fait alliance avec eux. C'est lui qui les a choisis. Et lutter contre ce même péché que nous aussi avons par être peut-être trop familier avec Dieu et cette place que nous avons dans sa grâce. Vous le savez, cette petite oubli, cette petite « Ah oui, mais de toute façon, Dieu est bon. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire cela, mais quand même. Hein. » On oublie ce que le péché a coûté le Christ aussi. Qu'il est crucifié pour nos péchés, pour notre pardon. Et quand on prend cette alliance à la légère, on perd toute cette beauté qui est attendue pour nous dans toute notre vie. Il nous accompagne. C'est ce regard bienveillant dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il les appelle à une nouvelle conversation. Discutons ensemble, il dit. Parce qu'au moins, lorsqu'on parle, il y a opportunité pour convaincre, pour changer d'avis. Et c'est le silence qui tue. Vous qui êtes mariés, vous qui avez des frères et des sœurs, vous savez que, lorsqu'on parle, même si on est en dispute, au moins ça parle et puis on peut résoudre un conflit. Ah, mais le silence, il n'y a rien de pire. C'est un mur infranchissable. En ce qui concerne l'Évangile, c'est un message avec des promesses plus grandes qui se traduit dans une responsabilité large parce qu'il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes pas condamnés. Même si Dieu doit nous corriger, nous ne sommes pas condamnés. C'est fait par amour en Jésus-Christ qui a payé la dette de notre péché. Il faut se rappeler que vis-à-vis de Dieu, cette dette a été payée. C'est pourquoi nous venons à lui et nous confessons nos péchés, parce qu'il nous purifie. Mais lorsque Dieu nous corrige, c'est un signe de son amour. Pour revenir à cette église de Laodicée, Jésus dit ceci en Apocalypse 3, maintenant verset 19. Même église, il dit, « Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et tu allais répondre, toi. Donc, il ne veut pas qu'on passe à côté de tout ce qu'il a pour nous. C'est pour ça qu'il le dit. Et donc, en conclusion, c'est un passage assez lourd, j'avoue. Un passage lourd entre deux passages d'encouragement. Donc la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus encourageant. C'est facile de regarder à Israël, dire ah oui, mais leurs erreurs, ouais, ok, bon, Israël, on est mieux, on a l'esprit aujourd'hui, donc on est mieux. Non, on n'est pas mieux. Non, on n'est pas mieux. On est béni. On est vraiment béni d'avoir le Saint-Esprit qui est de connaître tous nos péchés qui sont pardonnés, de ne pas pour chaque péché revenir à un autel et sacrifier. Non, Jésus, il a tout effacé. Nous sommes aimés, acceptés dans le bien-aimé. Rien ne peut nous arracher de sa main. Oui, on est béni. On n'est pas mieux. Dieu devait avertir son peuple parce qu'ils se sont devenus tièdes. Ils ont oublié leur Dieu. Et parfois, nous faisons la même chose. L'Évangile, donc, nous appelle à regarder dans le miroir, en prendre conscience être honnête. Et si on réalise, oui, effectivement, c'est moi, je suis tiède en ce moment, j'ai tendance à l'oublier. En fait, dans cette même lettre, à cette même église, Jésus, il dit quelque chose de merveilleux. Verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qu'il promet, c'est l'intimité. Une relation. Manger avec quelqu'un à l'époque. On ne peut pas être plus intime. Enfin, si. Il y a quand même quelque chose de très très fort. Hein. On partage le même pain. Ça entre en toi, ça entre en moi, on est un. Jésus offre cela. Et c'est ce dont nous avons désiré peut-être plus depuis toujours. Et en venant, peut-être, vous avez ça, comme oui, oh, j'aimerais bien pleurer comme avant. Ou, ok. Oubliez le passé, dans ce sens, les principes sont toujours là. Il veut faire quelque chose de nouvel. Car aujourd'hui est le jour de salut. Aujourd'hui, accrochez-vous à lui aujourd'hui. Ouvrez cette porte. Qu'il mange avec vous aujourd'hui. Parce que c'est ça la promesse. Prions. Père, merci pour cette promesse merveilleuse. Tu es toujours présent, toujours plein de grâce et de bonté envers nous. Donc, Seigneur, nous te louons avec tout ce que nous sommes. Et nous te demandons de nous pardonner. De nous transformer, Seigneur. De faire une nouvelle œuvre, même en nous aujourd'hui. Nous ouvrons la porte pour que tu viennes manger avec nous.